que j'ai intitulé mon intervention Exil et langue. Le thème de l'exil peut s'aborder de bien des façons, mais ce soir, il s'intègre dans le thème général de notre séminaire sur la ségrégation. Comme le dit l'intitulé de cette soirée, il y a des exils au pluriel. J'interprète ce pluriel non pas comme le fait qu'il y a des exils choisis et d'autres forcés, comme en témoigne notre actualité, mais plutôt comme le fait que chaque sujet exilé vit l'exil différemment, non seulement en fonction des raisons de son exil, mais surtout en fonction de sa subjectivité. Il y a autant de dits sur l'exil que de sujets. C'était ce que tu disais aussi. Les dits de chaque exil sont singuliers, mais il y a un dit qui est mis en avant par de nombreux exilés ayant dû fuir leur pays, qui est la perte de la langue maternelle. Je précise, suite à une remarque qui m'a été faite, qu'il y a bien sûr des exils qui n'entraînent pas la perte de la langue, quand le pays d'accueil parle la même langue, mais tel n'est pas mon propos ce soir. J'ai donc choisi d'aborder cette question en empruntant à Vicente Mila, collègue madrilène, le titre d'un de ses textes, Exil et langue. Dans son texte non traduit en français, il postulait la relation de voisinage qu'il existe entre exil et psychanalyse, à partir de la question de la langue. La définition de l'exil, qui s'applique à bien de domaines, dit toujours la même chose, être hors d'eux, loin d'eux. Que ce soit loin de son pays, loin de la personne aimée, l'exil est un ne plus être chez soi, un être séparé d'eux. Mais existe-t-il un chez soi ? Non. C'est ce que nous enseigne une psychanalyse qui réécrit autrement l'exil, qui est à l'origine de l'histoire de l'humanité. Le mythe fondateur de l'être parlant est celui d'Adam et Ève chassés du paradis pour avoir mangé du fruit du savoir sur le bien et le mal. Vient ensuite l'exil de Caïn, le premier homme né d'un homme et d'une femme condamné par Dieu à errer de par le monde pour avoir assassiné son frère. Il y aura d'autres exils racontés par la Bible, notamment celui d'Abraham. Exil, celui-ci fait de promesses qui refondent le pacte de l'humanité avec Dieu. L'exil n'est pas uniquement une malédiction, il devient aussi, avec l'exil d'Abraham, la possibilité, voire la condition, pour trouver sa véritable identité. La souche de la pensée juive, dit Delphine Horwiller, dans un entretien paru dans Libération, c'est qu'il ne faut pas être identique à sa souche. On est soi quand on est sorti de sa matrice, quand quelque chose en nous s'est mis en route à partir de sa naissance. L'exil devient alors la métaphore du chemin à parcourir pour se retrouver soi. N'est-ce pas aussi un désir de se retrouver soi, ce qui conduit quelqu'un à l'analyse lorsqu'il a rencontré dans sa vie quelque chose qui est venu ébranler ce qu'il croyait être soi? L'exilé serait-il alors le témoin de cet exil qui habite tout sujet, mais qu'à moins d'une analyse, il ne peut savoir? Serait-ce là une des composantes des racismes de la ségrégation? En fait, j'ai eu la même difficulté, dont tu le fais part, de faire le lien entre exil et ségrégation, et c'est pour ça que, voilà, mais je ne suis pas
ça fait comme on peut.
Oui, exactement. Le sujet ne se sent exilé qu'à partir d'un point d'extranéité, que ce point soit pour l'exilé proprement dit son pays, sa langue, soit pour le parler-être, son inconscient. Lacan emploie peu le signifiant exil, bien que son enseignement ne nous parle que de ça. Le sujet est exilé de sa jouissance, de son désir, de l'objet A, et aussi exilé du rapport sexuel, impossible. L'exil est une coupure d'avec le chez-soi. Pour le sujet exilé, il implique la perte de ce qui faisait la jouissance des sens. Paysage, odeur, sensation, et aussi coupure, non pas rupture, avec ses liens libidinaux, familiaux et amicaux. Il implique aussi la perte de la jouissance du sens, portée par sa langue maternelle, du fait de l'éloignement du discours dans lequel elle s'inscrivait. L'exil, moi je dirais, malgré soi, il est définitif. Lorsqu'il y a retour au pays, le sujet se vit souvent comme un étranger dans son propre pays. L'exil suppose une rupture, il y a un avant et un après. Le retour, là où la croyance du sujet lui faisait miroiter qu'il pouvait enfin se sentir chez soi, n'est plus possible parce qu'il n'y a plus de chez soi. C'est ce qu'exemplifie le mythe d'Ulysse et son retour impossible à Ithaque. Reste la nostalgie qui se nourrit en grande partie, non pas tant de ce qui a été laissé derrière soi, mais de ce à quoi tout sujet a affaire, un passé qu'il aurait rêvé autre, fiction. La nostalgie est nostalgie de ce qui n'a pas été. La nostalgie est aussi le ressort sur lequel s'appuie, et un autre type de nostalgie, sur lequel s'appuient tous les discours de ceux qui souhaitent le rétablissement des frontières, le refus des immigrés, revenir au temps d'avant, qui ne sera, qui n'est plus et ne sera jamais plus. L'exil du pays, du passé, de l'infantile est irrémédiable. Il en est de même dans une psychanalyse, où cet exil de l'infantile est à l'œuvre. Le sujet a abandonné ses certitudes, ses idéaux, s'apercevoir que l'objet était de toute façon déjà perdu. Il a aussi à prendre en compte cette pulsion qui lui est étrangère et menace ses identifications. Il ne peut plus mépriser ses lapsus, oublis, actes manqués. Le sujet a à parcourir le chemin des séparations et des aliénations conflictuelles. Cet exil est irréversible de structure. À la fin d'une analyse, la structure de l'inconscient a été réduite et il ne reste que la solitude, comme en témoignait Lydie Grandet à nos dernières soirées, et les impossibles. Le sujet est exilé de sa jouissance du fait d'être un par-l'être, de son désir qui est désir de l'autre et du savoir impossible. Le moi, disait Freud, non seulement il n'est pas maître dans sa propre maison, mais il en est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe en dehors de sa conscience, dans sa vie psychique. L'exilé n'emporte avec lui que ses souvenirs et sa langue. C'est pourquoi je me suis intéressée aux dits d'écrivains forcés à l'exil, qui ont donc un rapport fort à la langue, qui ont témoigné de la perte primordiale qu'a supposé pour eux d'avoir dû abandonner leur langue maternelle, celle dans laquelle s'est forgée la façon dont les expériences de leur vie ont été vécues. Il y a une jolie expression traditionnelle dans un texte qui dit « le plus charnel des expériences d'origine ». Arnold, dans une lettre adressée à Freud en 1936, se plaint de son exil forcé en Palestine. Mais ce qui lui est le plus douloureux, dit-il, est de ne pas se sentir à sa place du fait de devoir parler l'hébreu et d'être réduit à ne mener qu'une existence traduite. Tu connaissais ? Bon. Freud lui répond de rester en Palestine, en lui disant « En Amérique, il vous faudrait en plus renoncer à votre langue, qui n'est pas un vêtement, mais votre peau. » La peau, c'est cette langue qui possède une logique syntaxique interne au discours dans laquelle elle s'insère et des signifiants qui permettent à chacun d'exprimer sa subjectivité dans la société dans laquelle il vit. Cette existence traduite, dont témoigne Arnold Zweig, implique un devoir dire autrement, avec une langue qui est à une certaine distance de soi, qui soustrait au sujet la jouissance et le sens que porte la langue maternelle, et le dépossède de toute chasuble narcissique. Je cite Serge Côté. On dira tout ce qui peut se dire, quelle que soit la langue, mais c'est le nouage à la jouissance du dire qui est rompu. L'intime, dit dans la langue étrangère, devient extime. C'est la perte de la sonorité des phonèmes sur lesquels chacun appuie à sa façon, la perte des nuances de la langue, ainsi que celle des équivoques qui jouent de la sonorité de la langue. L'exilé ne perd pas son idiome, il perd sa langue et avec elle son univers de discours et les ressources propres à l'inconscient qui ne joue sur le cristal de la langue que dans sa langue maternelle. Car, je cite Lacan dans Radiophonie, l'effet de langage ne se produit que du cristal linguistique. Je précise là encore que Lacan a beaucoup insisté pour dire qu'il n'y a pas d'univers du discours et qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. Mais néanmoins, chaque sujet a son univers de discours avec ses signifiants, son monde. Nous avons d'autres témoignages de la prégnance de la langue. L'écrivain Amos Oz n'était pourtant pas exilé. Il disait que la langue était son pays. Je crois que Stéphane Zweig aussi, d'ailleurs, il y a plusieurs. et que rien ne pouvait remplacer la langue maternelle. Et pourtant, sa langue, l'hébreu, a eu la particularité d'être restée une langue morte pendant des siècles. Elle ne servait qu'à la prière jusque dans les années 20. De nombreuses personnes ont forgé des mots pour la rendre opérante, vivante, dont lui, qui disait dans un entretien à France Culture qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, en avoir forgé deux ou trois en transformant un mot en verbe ou en adjectif. Et il avouait s'être senti proche de l'immortalité en entendant de la bouche d'un chauffeur de taxi un des mots qu'il avait forgé. La langue dite maternelle est liée à un pays géographique, mais ne se confond pas avec lui. L'exilé l'emporte avec lui. La marque de l'exil, dit Barbara Cassin, c'est la transformation du rapport à la langue. L'exil dénaturalise la langue maternelle et c'est ce qui la sauve toujours. Elle la dénaturalise car l'exilé l'emmène avec lui, mais la langue demeure. Elle reste la peau du sujet où qu'il aille. Comment ?
Se demeure
la langue maternelle. Anna Arendt, qui a beaucoup évoqué, ben oui, j'ai pris les auteurs qui en parlent, qui parlent de la langue. Hein. Ils sont tous juifs, mais bon. Anna Arendt, qui a beaucoup évoqué son rapport à la langue, ne fait pas coïncider la langue et la patrie. Elle les délie. Dans un entretien à la télévision allemande en 1964, l'écrivain Günter Gauss lui demande si l'Allemagne préhitlérienne, telle qu'elle n'existera plus jamais, lui manque. Elle répond qu'elle ne peut pas dire qu'elle n'en ait aucune nostalgie, mais que ce qui en est resté est la langue. Elle dit éprouver une distance avec l'anglais, langue dans laquelle elle devait écrire du fait de son exil, mais que rien ne peut remplacer la langue maternelle. Celle des poèmes allemands appris dans son enfance et qui sont présents au plus profond de sa mémoire. Et là, elle dit une phrase en anglais, « In the back of my mind ». Comme quoi, on est entre deux langues. On peut oublier, dit-elle, mais dans l'autre langue, on a alors affaire à une langue dans laquelle un cliché chasse l'autre, parce que la productivité dont on fait preuve dans sa propre langue a été coupée net au fur et à mesure que l'on oubliait cette langue. Elle ajoute que ce qui a contribué chez elle à l'oubli de la langue maternelle a été le choc d'apprendre que l'impensable de ce qui se disait sur Auschwitz était bien vrai. Reste à l'exilé la jouissance de la sonorité de la langue maternelle et de certains signifiants qui apparaissent tout d'un coup intraduisibles au moment d'une conversation dans la langue étrangère. Mais un certain éloignement d'avec sa langue maternelle se produit inévitablement. Non seulement du fait que les langues continuent d'évoluer avec l'apparition de nouveaux mots concomitants aux changements sociétaux, mais aussi du fait que l'exilé a perdu l'usage de certains mots, de certaines expressions liées à des domaines peu usuels dans son quotidien. Quel est donc ce voisinage entre l'exil de la langue maternelle et l'expérience d'une psychanalyse ? La psychanalyse est-elle, comme le dit Vicente Mira, une machine qui dématernalise la langue ? Dans un premier temps de son enseignement, Lacan a distingué la langue au sens de l'idiome, et la langue maternelle qui a marqué les expériences vécues de l'enfance. Celle, dit-il, où le sujet fait passer dans le réel des significations. C'est dans le séminaire 3 qu'il a cette définition, qu'il dit ça sur la langue maternelle. Ce n'est pas la même chose d'être plus ou moins captivé, capturé dans une signification et d'exprimer cette signification dans un discours destiné à le communiquer. C'est dans la postface au séminaire 11 où il va évoquer le processus de dématernalisation que produit l'école sur la langue maternelle, lorsque l'enfant apprend à lire en s'alphabétisant. Quelques mois plus tard, dans le séminaire encore, il va dire que le langage n'existe pas. Le langage, sans doute effet de la langue, c'est une élucubration de savoir sur la langue, en un seul mot. La langue, en un seul mot, de l'inconscient, là je cite Colette Solaire, n'est pas la langue maternelle. Un inconscient parle la langue qu'il est seul à connaître. La matérialité de cette la langue emprunte certes ses éléments de la langue idiome, mais ne vient pas d'elle. Elle cristallise cette matérialité de sa rencontre toujours contingente, de sa coalescence accidentelle avec la substance jouissante. Du coup, les langues n'ont rien à voir avec les dictionnaires des langues dites vivantes. L'exil de la langue maternelle voisine avec la dématérialisation que produit une analyse du fait que le rapport au signifiant du discours de l'autre, qui font l'inconscient langage du sujet, se modifie dans l'élaboration analytique. Dans une analyse, la parole du sujet n'est plus énoncée à partir du discours du maître, du langage, à partir de cette place. Il est dans une position haute car le discours analytique le décentre de sa position. Elle interroge le sujet dans ce qu'il dit, dans pourquoi il dit ce qu'il dit. Et c'est là où il fait l'expérience qu'il y a de l'impossible à dire, qu'il ne peut pas vraiment dire ce qu'il veut, ni dire ses affects, et qu'il prend la mesure du malentendu inhérent au langage, tout comme l'exilé qui doit parler dans une autre langue que la sienne. Je terminerai par une petite anecdote que quelqu'un m'a rapportée récemment, celle d'un chauffeur de taxi chinois dont le GPS indiquait les rues de Paris en chinois. Décidément, rien ne peut remplacer la langue maternelle.